Comme un bruit qui court, c'est le nouveau magazine de reportage de France Inter. Et cette semaine, c'est Anaëlle Verzeau qui est avec nous, puisque Charlotte Péri est en congé maternité.
Au sommaire de cette semaine, la face nord de l'architecture, les élections en Tunisie et les pros de la com du Front National.
En direct du studio 611 de la Maison de la Radio, comme un bruit qui court, l'émission qui bidouille le son et chatouille le sens.
Nous n'allons voter pour personne du tout parce que nous n'avons plus confiance en eux.
Moi, je ne suis pas parlé de la politique, mais je ne connais rien là-dedans. Mais enfin, à en entendre parler, on entend beaucoup de monde que ça ne va plus.
Arriver à faire 7 communiqués par jour, c'est vraiment essayer de vouloir traiter de tous les sujets et de se positionner sur tout.
Ah, je ne sais pas si vous voyez tout ça, qu'est-ce qui se passe là ?
Demain, les Tunisiens iront voter pour les premières élections législatives libres depuis la nouvelle constitution adoptée en début d'année. Comment les Tunisiens vont sortir de cette longue période de transition post-révolutionnaire ? Beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup d'inquiétude. Give nous emmène à Tunis pour la dernière semaine de cette campagne électorale. Anaëlle, c'est à la campagne électorale permanente du Front National en France qu'elle s'est intéressée. Et Édouard, un patriarche de la rue Auguste Delacroix à Boulogne-sur-Mer, il ira voter en 2017, bien obligé.
Antoine Chao.
Anaëlle Verzeau.
Guy Vanty. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
La fondation Louis Vuitton conçue par l'architecte Franck Guéry ouvre ses portes à Paris. Un iceberg, une serre, un bateau s'enflamme Bernard Arnault, le milliardaire et PDG du groupe LVMH, dans son discours d'inauguration du bâtiment. Ça, c'est l'architecture de prestige, de fric, qui est au service des plus riches de ce monde. Mais en architecture, il y a aussi une face nord, une face sociale, qui se met avec conviction au service de l'habitant le moins fortuné. Nous, on part à Boulogne-sur-Mer, dans le Nord-Pas-de-Calais, avec Sophie Ricard, une jeune architecte de l'équipe de Patrick Bouchain, de l'agence Construire, qui est chargée du réaménagement de la rue Auguste Delacroix. Sophie est restée 3 ans sur place, en permanence architecturale, comme elle dit, pour réhabiliter avec les habitants cette petite cité pavillonnaire dégradée, refuge d'une population pauvre qu'il était question de déloger et de déplacer en rasant la 60aine de logements sociaux.
Normal, il m'entend bordel là. Ouais, c'est...
France Inter.
France Inter, plutôt. Mais pourtant, c'est devenu... Radio, ça, France Inter.
Alors, Sophie Ricard, hein, ici, on est à Boulogne-sur-Mer, dans le quartier du Chemin Vert, le plateau du Chemin Vert. Mmh. Et vous avez...
Habité.
Vous avez habité ici, vous avez fait une permanence architecturale. Alors c'est quoi une permanence architecturale ?
C'est-à-dire que pour une fois, l'architecte va peut-être habiter l'endroit qu'il dessine et qu'il construit. C'est-à-dire que pour une fois, on ne va pas inventer des plans et dessiner des choses très abstraites sans connaître un contexte ou sans connaître les futurs usagers ou futurs habitants. C'est que l'idée, c'est avant de dessiner quoi que ce soit, il faut déjà habiter et comprendre. Et ensuite, on pourra construire et démontrer que on peut construire en habitant et habiter en construisant.
Alors là, en l'occurrence, il ne s'agissait pas de construire, mais de réhabiliter, c'est ça ?
Effectivement, là, c'est de la réhabilitation. C'est des maisons qui sont déjà en place, qui ont été abandonnées, mais qui ont été entretenues, on va dire, par les locataires de leur logement. Et du coup, l'idée, c'est de partir du déjà là. C'est-à-dire que l'opération, normalement, cette petite rue devait faire partie d'un programme en rue, l'Agence pour le renouvellement urbain. Il se trouve que l'ANRU voulait démolir ses 60 petites maisons et le maire s'est battu. Et donc, il y a eu une véritable volonté politique pour dire, à un moment donné, il faut arrêter de la tabula rasa, il faut arrêter de démolir. Et donc, on va conserver ces maisons et conserver les habitants qui habitent dedans et faire un projet de réhabilitation avec les habitants.
Donc, du logement social, hein ?
Du logement très, très social, même, à la base. C'est-à-dire que c'était des loyers non conventionnés à la toute base. Et au fur et à mesure, l'office HLM a conventionné les loyers.
Alors voilà, c'est la rue là, Laetitia.
Oui.
Auguste Delacroix, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Il y a des maisons de toutes les couleurs.
C'est Picasso, comme tout le monde dit.
Mais c'est Picasso. C'est pas Auguste Delacroix, c'était déjà un peintre de chez vous.
Oh, je sais pas, je connais pas moi.
Alors, comment il s'est transformé ce quartier alors? C'est comment maintenant?
Bah, les couleurs, tout ça, c'est vrai que ça fait beau, mais c'est plus comme avant. C'est vrai, c'est plus comme avant. Charton, maintenant, il nous embrouille pour rien.
Le directeur de l'office HLM, qui vous embête pour un rien. Vous
bah, êtes... ouais. Donc, les signes, ces chiens, ils aboient, mais on a toujours eu des chiens, franchement. Même ma mère, elle a des chiens. Tout le monde a des chiens par ici. Sophie. Hey, Sophie, j'ai un service.
C'est le film, là.
Ouais, elle filme quand.
Ouais, ça, c'est un bout.
Dans la caravane, tout ça. Bon,
bah, c'était alors, un bon, bordel. Alors, Aurélie. Comment ça s'est passé, ce chantier, alors?
Bah, ça va, ça s'est bien passé, à part qu'il y a eu un peu de dégâts avec les travaux, tout ça. Bon, sinon, ça a été. Hein.
Parce que vous vouliez rester là?
Ah non, moi, j'habite pas par ici, moi. C'est ma cousine, ma grand-mère, tout ça. Moi, je reste pas par ici. C'est
la famille qui est où?
En ville.
Ah, ici, on n'est pas en ville?
Bah non, ici, on est au chemin vert.
C'est pas la ville?
Non, c'est pas la ville.
Mais vous revenez quand même voir la famille?
Tous les jours, ouais.
Tous les jours?
Ça va, il y a du monde, il y a des gamins, il y a tout, il y a du monde.
Il y a toujours d'animation.
Ouais, déjà ici, il y a toujours d'animation, il y a des bagarres, il y a tout ici.
Il y a des bagarres?
Ouais, il y a du catch, il y a tout.
Ah d'accord. Il y a une belle vue quand même, là, vous voyez la mer.
Là. Ouais, on voit la mer en bleu quand il fait chaud.
Vous avez le terrain de football à côté.
Et tu joues au foot, toi?
Non, je suis pas un garçon en qui.
Un garçon en qui?
Non, hein.
C'est beau Boulogne-sur-Mer.
Boulogne-sur-Mer, c'est beau. Il y a la mer, il y a les. Attends. On mange des moules frites, on fait tout ici. Hein. Bah ouais. Quand Sophie était là, le week-end, on faisait des soirées.
Alors Sophie, elle a passé combien de temps ici?
3 ans. 3 ans de conneries qu'elle a fait ici.
Mais alors qu'est-ce qu'elle faisait ici?
Bah elle travaillait, elle s'occupait de tout le monde. Le week-end, elle s'est reposée de temps en temps, on allait en boîte. Ah bah pour travailler, pour faire les maisons. Architecte.
Ouais. Moi je suis Sébastien Aymard, architecte de l'agence Construire, atelier qu'a fondé Patrick Bouchain il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et on travaille donc sur beaucoup de projets très variables et toujours en essayant de rechercher la haute qualité humaine dans cette architecture. Et effectivement, le travail de Sophie qui s'installait sur place et qui faisait le projet de rénovation des maisons avec les habitants, c'est pour lancer un chemin différent ou une démarche différente sur à la fois ce cas particulier à Boulogne, qui est de dire peut-être qu'on peut, l'office d'HLM peut avoir une relation différente avec les occupants de ces logements, et c'est aussi pour donner un exemple sur une autre façon de faire de la rénovation urbaine de manière plus générale et plus nationale, en s'occupant des gens, en faisant la rénovation avec eux et en les faisant participer. Et de ce fait, ils s'approprient de manière immense l'habitation dans laquelle ils sont, même quand c'est du logement très social.
Du logement très social, c'est vrai. Et c'est sûr que c'était plus simple de déplacer le problème, de raser le quartier, mais ça ne règle rien. Alors c'est l'agence Construire qui est allée au charbon. Et c'est vrai qu'ils sont pas toujours commodes, hein, les habitants de la rue Auguste Delacroix, si longtemps délaissés. Ils ont leurs habitudes, faire un peu de ferraille, un peu de cuivre, un peu de mécanique, ça permet de s'en sortir. Mais pour d'autres, ça c'est des nuisances. Alors les maisons sont restées, elles sont réhabilitées, elles sont belles, elles sont saines. Mais maintenant, avec l'office HLM, le nouveau bailleur, ça se passe pas au mieux. Faut trouver des compromis. Alors on part chez Édouard, un ancien, un patriarche de la rue Delacroix, pour comprendre.
Amis,
soyez les bienvenus chez nous. Sur la petite assiette là au-dessus de la fenêtre.
Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais.
Alors Edouard, comment ça se passe ici alors, dans le quartier? Depuis que ça a été rénové, réhabilité, vous êtes content?
C'est de pire en pire.
Alors moi je suis étonné quand même, parce que moi je suis venu, je pensais que vous étiez content, qu'il y avait un quartier qui avait été réhabilité d'une façon exemplaire, et vous n'êtes pas content.
Je préfère que les travaux, tout ça, non, c'est bien. Si ça continue, il faut avoir une carte et puis montrer sa photo et puis hop, passer avec la barrière. Allez.
Alors vous êtes ferrailleur, vous, Edouard?
J'étais ferrailleur. Là, je suis en retraite depuis 6 ans.
Qu'est-ce qu'ils font comme boulot, les gens, ici?
Bon, le 3/4, ils sont à ISO, donc ils travaillent. Et donc, ils cherchent du travail, tout ça.
Il
n'y
a pas beaucoup de boulot, c'est ça? C'est difficile.
Il n'y a pas de travail par ici. Il n'y a pas beaucoup de travail, c'est dur. Le métier de... sur le port, tout ça, il n'y a plus rien. question de poisson, tout ça, c'est plus comme avant. Avant, il y avait beaucoup de boulot. Mais ça, c'est fini, tout ça. Les gens qui sont à RSA. Là-bas, mon fils est à RSA.
Au RSA ?
Ma fille a un émeraire de famille. Et tout le monde, ils n'ont pas de travail, il faut la ferraille. Ils essayent de se démerder, quoi. Vivre. Même qu'ils travaillent, ils n'arrivent pas. Maintenant, il faut la ferraille. Il faut un peu de tout, quoi. Si c'est pour la ferraille, c'est autre chose, c'est certain. Bon, je ne suis pas parlé de la politique, moi, je ne connais rien là-dedans. Mais enfin, à en entendre parler, on entend beaucoup de monde que ça ne va plus. Ah, je ne sais pas si vous voyez tout ça, qu'est-ce qui se passe là. C'est de pire en pire. Oh, pire en pire. Là. On n'y arrive plus comme avant, tout. On demande des trucs, des squats, on ne l'a plus. Ah, c'est vraiment. Non, ça ne va plus du tout là.
Vous allez voter, vous, quand même, ou pas?
Ah, bah oui, j'ai voté, ouais. Bah oui, obligé. Hein. Bah, obligé de voter. Hein. Pour ma femme aussi, elle a voté, tout ça. Dans 2 ans, hein, déjà. Là. Bah, c'est pas qu'est-ce qu'on va voter. Ah, peut-être Le Pen. Peut-être Le Pen. Bon, je sais pas. Bon, ok, la politique, c'est toujours la même chose. Alors, que ça soit la droite ou la gauche. Enfin, on verra.
Et là, Sophie, ça vous fait plaisir de la revoir?
Ah, bah oui, il n'y a pas de problème. Hein.
Elle est encore en train de s'occuper de vos affaires, là, des courriers que vous avez reçus.
Elle a toujours coupé les affaires, tout ça. Et elle a fait les travaux bien. On n'a pas à se plaindre de. Il aurait fallu qu'elle reste ici.
Ah, vous voulez qu'elle revienne, qu'elle reste là?
On est bien qu'elle revienne dans ce quartier-là. Aujourd'hui, trop sympa.
Oui. Oh, ben. Moi, je vais y aller parce que là, on doit aller chercher du charbon. Là. Bon, c'est super.
Ouais, samedi.
103.3.
103.3, France Inter, 103.3. À Boulogne.
Ouais, Boulogne-sur-Mer.
Tu bosses toute ta vie pour payer ta pierre tombale. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas, faut faire le premier pas.
C'est beau,
tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle.
Blasphemer, c'est beau, y a
impossible d'avancer
sans
ton gilet pare-balles. Tu voudrais
donner
des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices.
Oh, les grillages.
Et Ribéry, il est d'ici, c'est ça?
Ouais, derrière.
Tu m'énerves. Anti-social! Anti-social!
Anti-social!
Anti-social!
Anti-social!
Un avion surgissant de long, baby. Bon, il y a plusieurs, hein, plusieurs trucs. Hein.
Ah, c'est beau Boulogne-sur-Mer, c'est vrai. Et Sophie, l'architecte, elle est vaillante, c'est vrai aussi. C'était la face nord de l'architecture avec Sophie Ricard de l'agence Construire et les habitants de la rue Auguste Delacroix que je remercie et à qui je souhaite une belle vie de quartier. Construire ensemble la rue Auguste Delacroix, c'est aussi un film documentaire qui va sortir de Jacques Kébadian très prochainement.
Comme un bruit qui court.
Bonjour. On est que de petites statues, mais à gauche, on sait rien. Allez.
La révolution, c'est une lutte, c'est un combat entre l'ancien et le nouveau.
Il y a beaucoup de gens populaires qui aiment Nada.
Oui, je vote pour la Nada.
Nous aimons Ben Ali parce que Ben Ali nous a fait vivre en sécurité.
C'est-à-dire que les autres doivent obéir au doigt et à l'œil.
Et peut-être on va revivre un nouvel épisode de cette révolution tunisienne et qui aura surtout un caractère économique et social.
Le grand tyran est parti, c'est déjà pas mal.
Elle me dit ça en brandissant le poing.
Vous l'avez entendu aux infos, c'est demain que la Tunisie va voter pour ses premières élections législatives libres. Bientôt 4 ans après la fuite de Ben Ali et la chute de l'État parti unique du RCD, les Tunisiens doivent négocier la sortie de la transition démocratique et asseoir de nouvelles institutions, car les enjeux sont énormes. Pour ce qui reste du printemps arabe, déjà, en Égypte, en Libye, en Syrie, on n'a jamais été aussi loin d'un tel vote. Les chancelleries occidentales, donc, surveillent ce petit pays comme du lait sur le feu avec ses 5 millions d'électeurs. Mais à l'intérieur, un gouvernement de technocrates expédie les affaires courantes depuis la crise de 2013, l'assassinat de militants démocrates, des grèves à répétition qui avaient vu démissionner la Troïka au pouvoir. Le parti islamiste Ennahda, pourtant victorieux, a donc lâché les rênes pour mieux préparer ce scrutin essentiel. Avec en face un nouveau parti, Nedda Tounes, mené par Essebsi, rassemblement de tous ceux qui ne veulent pas voir Ennahda seul au pouvoir. Mais cette vision binaire des choses n'est pas suffisante pour essayer de comprendre ce que vit la Tunisie. Car il y a les partisans toujours et les opposants toujours. Et puis il y a aussi, surtout, les déçus. Ceux qui ont cru que tout allait changer, qui ont vu leur niveau de vie chuter, le chômage s'accroître, l'espoir se dissiper. L'abstention sera donc un des éléments clés de ce scrutin. Alors pour commencer ce tour, rencontre avec les militants de ce parti Ennahda dans la banlieue tuniste, pile à la frontière entre un quartier moyen et un quartier modeste, à la suite du candidat, et pas n'importe lequel, s'il s'agit d'Abdel Fattah Mourou, un avocat et un cofondateur du mouvement Ennahda en 1981. Tout ça pour se poser la question, après le séisme de 2011 et le printemps arabe, la Tunisie parviendra-t-elle à sortir de la zone de turbulence ? Alors nous voilà en train de tracter pour Ennahda. On est dans quel quartier ici ?
C'est l'Omran, ça. C'est l'Omran. Et tout droit, c'est Jbal Ahmar.
Vous êtes en train de tracter pour Ennahda et vous avez une jolie petite casquette en papier.
Merci, merci beaucoup. Merci.
Et parlez-moi de votre engagement. Ça fait longtemps que vous militez pour Ennahda ?
Oui, depuis 1978, j'ai mis le foulard. J'ai vécu un temps pour Bourguiba, j'ai vécu un temps pour Zine. J'ai vécu beaucoup. J'ai sorti de mon lycée. J'ai voulu être journaliste un de ces jours. J'ai voulu être.
Moi, je milite depuis 1978 dans le parti, donc j'ai vécu la période Bourguiba et puis la période Ben Ali, et nous avons été beaucoup, beaucoup opprimés. Moi, j'ai été renvoyée du lycée alors que je rêvais d'être journaliste à la base, mais on m'a privée de mon rêve.
Quand on est dans les mosquées, quand on a fait des relations de Coran, et on parle un peu de la société,
on faisait des réunions dans les mosquées, des cercles de parole, on lisait le Coran et aussi on réfléchissait sur la société, on discutait sur la situation de la femme, le voile, la cherté de la vie, des choses comme ça. Nous, on a été formés dans ces cercles-là, dans les mosquées.
Et
donc à ce moment-là aussi, nous avons compris que il nous fallait une démocratie, il nous fallait la liberté d'expression surtout. Parce qu'à l'époque, on nous a privés et du port du voile, mais pas seulement, on nous a même privés de la liberté de discuter avec les autres jeunes dans le lycée. Nous, on était jeunes et on était enthousiastes pour cette liberté.
Et là, voilà, on nous distribue des tracts. Il y a les militants qui sont là. Alors moi, très gentiment donné un tract en français vers une économie émergente et un pays stable. Ennahda, liberté, justice et développement. Et si on regarde le programme, ce qui est intéressant de voir, le programme politique du mouvement islamiste ici en Tunisie, c'est réduire l'impôt sur les sociétés, simplifier les procédures d'investissement et mettre en place une instance supérieure pour l'investissement avec la participation du secteur privé, réduire au minimum les autorisations pour l'exercice des activités économiques, c'est-à-dire moins de cadres, moins de contraintes, simplifier les procédures de recouvrement des crédits d'impôt. C'est que c'est un programme que ne démentirait pas le MEDEF français et qui est, comme on dirait, business friendly, c'est-à-dire qui est pour les affaires, pour
relancer. Ennahda, pour la liberté, pour les affaires, pour réunir le chab, le peuple.
Mais il y a plein de gens qui disent, qui sont déçus d'Ennahda. Ceux qui ont voté en 2011, il y en a beaucoup qui disent Ennahda m'a déçu, ça va pas mieux.
Parce que les médias, ils ont.
Les médias, ils ont beaucoup menti, c'est pour ça.
الاعلام في تونس كذبوا علينا برشا وما يظهروش الحقيقه على خاطر هما ار سي دي توس.
Les médias nationaux ici, ils ont beaucoup menti à propos de Nahda parce qu'ils sont tous des RCD cachés.
Et là, il y a M. Mouloud qui est... Je ne sais pas s'il est pris à partie. En tout cas, c'est en train de s'animer un peu.
Ah oui, d'accord, j'ai compris. Les gars du quartier, ils sont en train de se plaindre de la pauvreté. Et ils leur ont dit, vous ne nous avez pas sortis de la pauvreté, Nahda, quand vous avez gouverné. Et l'autre, il lui dit, mais c'est Nahda qui t'a donné cette liberté de t'exprimer maintenant.
Le grand peuple de Nahda, il est à Nahda.
Il y a beaucoup de gens populaires qui aiment Nahda.
C'est bien, c'est chaud là dans le quartier. C'est-à-dire qu'il y a le garde du corps de M. Mouloud qui sont là, qui se font deux têtes de plus que tout le monde. Et puis il y a les habitants du quartier qui prennent la partie alors que d'autres sortent leur drapeau et... Ils sont assez à cran, les partisans de Nahda, du coin.
Rejeté par quelques jeunes du quartier. Ce café-là, il est très célèbre, il est très ancien. Donc voilà, les clients du café, certains sont sortis, ils leur ont dit « Cassez-vous d'ici, Nahda, vous n'avez rien fait. »
Bonjour, monsieur. Vous aussi, vous êtes énervé contre Nahda ?
هذاك الواقع خاطر ما مرينا منها شيء نهضه زادت غرقت البلاد وزادت حطمتنا.
C'est la réalité parce que nous on n'a rien vu de positif de la part de Nahda quand ils ont gouverné le pays a encore plus plongé.
احنا ما عادش خالطين باش ناكلوا.
On ne trouve même plus de quoi manger. Tout est devenu plus cher. Avant Nahda, on arrivait à manger. Parce qu'ils sont mis à gouverner sans savoir gouverner. Du temps de Ben Ali, on vivait mieux. Il dit vive Ben Ali, le jeune de quartier. Il dit vive Ben Ali et le militant Nahda est fâché. Il lui dit pendant du temps de Ben Ali, toi tu étais en prison et maintenant tu parles.
Moi, je n'aime pas Ben Ali. À l'époque, on ne peut pas parler. C'est maintenant qu'on peut parler. Heureusement qu'on a eu ça de la révolution.
C'est ça que c'est cette conversation-là qu'on a sur un bout de trottoir là, dans la banlieue de Tunis. On n'aurait pas pu l'avoir il y a 5 ans. C'est le principal acquis de la révolution, c'est qu'on peut s'exprimer. On ne mange pas encore très bien, mais on peut parler.
On peut parler. C'est exactement. C'est bien le mot.
Comme un bruit qui court.
اللي كتبت ستاتيو ما عندوش نص ساعه
On voit que la campagne législative n'a pas la même euphorie que le vote de 2011. La défiance du peuple, la tête sous l'eau, un fort taux d'abstention à prévoir, l'économie, le nerf de la guerre, les militants islamistes ont un travail difficile devant eux, même si leur campagne était bien préparée, bien huilée. Vous voyez, parfois, ça dérape. Mais ils ne sont pas les seuls opposants historiques du régime. Et c'est pour ça qu'on va aller voir une figure de la lutte contre la dictature, mais cette fois-ci classée à gauche de la gauche. À quelques kilomètres, pas plus, du quartier où les militants des Nahda tractaient dans les quartiers populaires, on se retrouve maintenant au QG de l'ancien Parti communiste ouvrier tunisien, le PCET, qui maintenant s'appelle le Front populaire. C'est le parti de Hama Amami. Enfin, en tout cas, c'est la tête de liste pour la présidentielle, qui sera en novembre et en décembre. Hama Amami, qui pendant des années sous Ben Ali était en clandestinité, qui était avec son épouse Radia Nasraoui, le militant qui narguait ouvertement le pouvoir benaliste.
Donc, il est entouré de personnalités de la société civile et l'événement qui va se passer là, c'est la signature d'un pacte. Ça s'appelle Dostourna, le réseau Dostourna, qui veut dire notre constitution.
Que le réseau Dostourna fait signer à tous les candidats, à toutes les listes en tout cas.
C'est ça, oui.
Qui enjoint tous les candidats à respecter leurs promesses électorales. Et voilà, maintenant c'est la photo. Ama Amemi, on vous connaît en France parce que vous avez été celui qui a nargué pendant des années le pouvoir de Ben Ali. Après avoir été l'ennemi public numéro un, maintenant vous êtes candidat à la présidence.
Oui, c'est ça l'histoire.
Et après avoir été pendant des années surveillé, pourchassé par la police, maintenant c'est la police qui veille sur vous. Là, je vois, il y a des gardes du corps en total treillis avec sa petite cagoule sur la tête qui veille.
Oui, c'est... Mais la situation n'a pas changé. Je suis toujours un peu séquestré. Mais maintenant, c'est pour mon bien, surtout ces derniers temps où les menaces, elles ont été toujours sérieuses. Mais maintenant, il y a...
Parce qu'on dit ça, on est devant le portrait de Choukri Belaïd.
De Choukri Belaïd, mon ami, mon camarade, qui a été assassiné avec Mohamed El-Brahmi. Maintenant, il s'agit de menaces de voiture PG.
Contre vous ?
Oui, du côté des extrémistes religieux. Mais la question qui se pose toujours, qui est derrière ces extrémistes ? C'est ça le problème. À qui profite le chaos ? Ça profite à ceux qui veulent faire avorter cette révolution tunisienne. La révolution, c'est une lutte, c'est un combat entre l'ancien et le nouveau. Il ne faut pas croire que les gros intérêts qui ont été attaqués par la révolution vont lâcher facilement. C'est pour cette raison-là qu'on doit continuer ce combat-là.
Et justement, quand on voit l'état d'esprit un peu des électeurs, il y a un vrai sentiment de gâchis, de désenchantement. Une des principales revendications aussi des gens, c'est du pain et du travail.
Oui, le pain et le travail.
Vous parliez des intérêts.
D'ailleurs, ce qu'on a pu gagner jusqu'à maintenant, c'est la liberté politique. Au niveau économique et social, les choses n'ont pas changé. Partout dans le pays, le chômage est en train de faire des ravages. La charité de la vie, l'exclusion, la marginalisation, la détérioration des services publics, la santé, l'éducation. Donc on a un grand chantier pour faire évoluer cette Tunisie. Et à mon avis, si le prochain gouvernement ne tient pas compte de ces problèmes économiques et sociaux, on va voir des gouvernements tomber l'un après l'autre. Et peut-être on va revivre un nouvel épisode de cette révolution tunisienne et qui aura surtout un caractère économique et social.
مز ولا كريرو روم في الزيجو للزيرو ماشي فوندو حفنة دوارة فاضلة عينينا مظلمة في حوم كلاريا وامية دورة جامية وين الفقر يعطي شيخة داوي يد كونسومر طلهوني يكثر من راسي دوزي ستالي في اللحوم مو كيلو غرام كريم دخام كيلو عام رزن وشم سواقرة التبرم سيسام محندر تيشم ريحة الخنان برشا فوق تبوليس على الحيوت متاكي فوق براكي يا سي ابيتي كراكي منتاليتا تودو زاباتيستا زيد في الغاز رونفور تكنيك بلا عليستا
Grande banlieue de Tunis.
Sud, Hammam Lif.
C'est la rue marchande. Comme ça, à première vue, on dirait pas la crise, hein, parce que là, il y a des boutiques un peu chic, des magasins, des chaussures. Mais là, on entend la musique et l'animation. C'est pas une animation n'importe quoi. C'est la campagne. C'est le grand et nouveau parti Nida Tunis,
L'appel de la Tunisie.
L'appel de la Tunisie, et là on voit la photo de Essebsi.
Béjira Essebsi, c'est donc le président du parti. Béjira Essebsi, il est assez âgé, comme tu as pu voir sur la photo.
Il a, je crois, 88 ans.
Et donc il a déjà travaillé avec, dans le régime de Bourguiba et dans celui de Ben Ali aussi. Donc, et après, bon, il a quitté. Mais c'est un ancien, quoi. Et d'ailleurs, son succès s'explique un peu comme ça. C'est l'aura de Bourguiba. Lui, il représente l'autorité de l'État, etc. Et là, on dirait qu'il va sortir parce que tout le monde se presse devant cette porte.
Là, c'est impressionnant. Il y a une espèce de barrage là, qui empêche toute la population de passer. Il y a des gars avec le t-shirt du parti qui font vraiment une barrière humaine.
Ils empêchent la foule de le voir.
Voilà, les caméras jouent des coudes. C'est là l'image à avoir. Et là, ce qui est drôle, là, c'est de voir que ce monsieur Essebsi, il est dans une boutique qui s'appelle Ortho Souplesse, vente de matériel médical et orthopédique. Bonjour, monsieur.
Bonjour, oui, vous écoute.
Vous êtes venu voir Essebsi, vous aussi?
Absolument. C'est un poids lourd, c'est un des plus compétents. Je vote pour lui. À son âge, évidemment, j'espère qu'il va former un bon gouvernement, qui sera explicite, clair et bon. Et qu'on ira dans le bon chemin. Et c'est un type qui n'est pas venu pour se remplir les poches.
Mais voilà. Par contre, il n'est pas tout seul. Derrière lui, dans ce nouveau parti, il y a toute une coalition.
Il faut être circonspect, il faut être très vigilant. C'est-à-dire que les autres doivent obéir au doigt et à l'œil. Sinon, il n'y a rien qui va. Il faut de la rigueur, de la discipline et le travail, bien évidemment. Sinon, on n'arrivera pas.
Voilà. Ah là là, il sort de là.
Ah oui, ben c'est vrai. Pour moi, actuellement, je crois que c'est le seul qui peut faire sortir de la Tunisie de ce marasme et ce bordel que nous avons actuellement. Voilà. Moi, je m'appelle Filali Mohamed. Voilà.
Merci.
Comme tous les Arabes, Mohamed.
Il y a une discussion très animée. De quoi vous êtes en train de parler, messieurs, dames?
Nous, on aime la Tunisie. Parce qu'il y en a un qui aime Nahda qui est là, et du coup, on lui a dit non, elle nous a rien ramené.
Parce que là, les élections, apparemment les législatives de dimanche, ça se joue entre Nahda et Nida Tounes.
Bien sûr, ça.
Pendant le gouvernement de Nahda, on s'est retrouvé à vendre nos affaires pour manger.
Nahda, elle a commencé à patauger avec sa prière et la mosquée, ainsi de suite. Regardez la France, 1905, séparation de l'Église et de l'État. Ça a bien marché, elle a souvent marché.
Bien sûr.
Le voile n'a rien à voir avec la politique, ça c'est entre moi et Dieu.
Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est quand même pas mal de gens qui regrettent l'époque d'avant, quand il y avait la prospérité économique. Bon, il y avait la police.
Quelle époque
de Zine et Ben Ali.
C'est un dictateur, il a décidé tout.
Il a cru bien faire. C'est une catastrophe, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Maintenant, je dois m'emprunter pour vivre. Mais c'est vrai ce que
vous
dites.
Vous êtes retraité?
Je travaille partout, je travaille à l'information, je travaille à la police, je crève la faim.
On était en sécurité quand il y avait Ben Ali, c'est sa famille qui était mauvaise. Bon, les autres langues lui disent non, ne dis pas ça.
Oui, la dame, elle se laisse aller un peu et on la met tout de suite dans le droit de chemin.
C'est n'importe quoi, elle lui dit, c'est des foutaises.
Il y a des
Nous aimons Ben Ali parce que Ben Ali nous a fait vivre en sécurité, et nous aimons Béjira Essebsi pour les mêmes raisons, qui nous fera vivre en sécurité. Que la Tunisie revienne en sécurité, vive la Tunisie.
Et la dame après, elle s'en va avec son hijab sur la tête. À la veille des élections, tout n'est donc pas rose derrière le front uni anti-islamique et ses appels à la stabilité. En regroupant des militants depuis la gauche syndicale jusqu'à la droite bénaliste, quelques vieilles casseroles recommencent à teinter. Et puis toujours aucune réponse au principal problème de l'insécurité sociale et économique. On est donc allé entendre un autre écho du côté de la gauche qui voit d'un œil critique cet unanimisme anti-Ennahda. Dans leur modeste bureau de Tunis, on est allé poser une question à l'UPL. Comment expliquer aujourd'hui la nostalgie de Ben Ali ? Cette Benalgie.
Amina Triki-Chapouto, membre du bureau politique du parti El Massar et campagne de l'Union pour la Tunisie.
Et là, je vous retrouve justement dans les locaux de l'Union pour la Tunisie, l'UPT, et vous êtes, comme beaucoup de Tunisiens en ce moment, en train de vous activer pour cette législative.
Absolument, on est en train de s'activer, donc ça grouille un petit peu de tous les côtés. Donc l'Union pour la Tunisie, on a essayé d'unir donc, un maximum de gens pour avoir le moins de listes d'indépendantes possible.
C'est-à-dire, en gros, pour simplifier, pour que les Français comprennent, c'est un peu gauche progressiste, c'est ça ?
On peut dire ça comme ça, absolument.
Une partie de la classe moyenne, déjà, est nostalgique de Zine Ben Ali.
Il y a des nostalgiques de Ben Ali. C'est des gens qui étaient pépères, qui vivaient tranquillement, qui aujourd'hui ont du mal. C'est vrai que le pouvoir d'achat, il ne faut pas oublier, a énormément baissé aussi. Les gens ont beaucoup de mal à boucler les fins de mois.
Donc c'est là où on peut dire facilement « c'était mieux avant ».
C'est là où on peut facilement dire « c'était mieux avant », c'est évident. Il y a la sécurité. Évidemment, les gens aujourd'hui...
Alors qu'à l'époque de Ben Ali, il y avait un flic à tous les coins de rue, donc effectivement...
Voilà, mais c'est pas pareil. En fait, avant, c'était pas la sécurité, c'était un régime policier, un régime où on était fliqué. Aujourd'hui, la sécurité est un souci majeur. Donc, il est vrai que ceux qui étaient les plus aisés, évidemment, sont ceux qui regrettent le plus une époque où ils vivaient bien mieux. Et c'est pour ça qu'ils sont nostalgiques. Moi, je dis... Je ne veux pas qu'il n'y ait à l'Assemblée du peuple que des gens qui pensent à leur propre intérêt. Je veux qu'aujourd'hui, il y ait à l'Assemblée du peuple des gens qui sont conscients des réels besoins du pays dans son intégralité. Parce que moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, on puisse fermer les yeux sur ce qui se passe hors de Tunis. Et quand je dis hors de Tunis, c'est-à-dire dans la banlieue de Tunis. Il n'y a pas besoin d'aller loin, dans les banlieues de toutes les grandes villes. C'est une misère, mais terrible. Ces régions, en fait, sont des régions qui sont complètement oubliées depuis les colons français. Donc, si vous voulez, je comprends un petit peu le trop-plein de ces gens-là. Si aujourd'hui, on ne se penche pas un petit peu sur leur cas, eh ben, moi, c'est ce que je dis aux gens aisés qui disent que c'était mieux avant. Eh ben, ça a explosé en décembre 2011. Si aujourd'hui, on ne se penche pas sur leur cas, si aujourd'hui, on ne fait pas quelque chose, eh ben, décembre 2011 sera multiplié par 10, tout simplement, dans très peu de temps. Parce que c'est pas possible, c'est pas viable, c'est plus possible.
Elle dit quoi, les dames ?
Allons faire le rassemblement devant le gouvernement. Elle demande de la mère de martyr.
Là, on est en bas de la Avenue Bourguiba, juste devant ce célèbre bâtiment qui est gris, qui a une triste mémoire ici à Tunis, parce que c'est le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire le QG de la police. Et là, il y a tout un tas de familles, de dames, de messieurs qui ont tous des portraits souvent de jeunes gens, avec derrière le drapeau tunisien, ce sont les familles de martyrs de la Révolution, ceux qui sont morts sous les balles en janvier 2011 à peu près.
Oui.
Vous êtes avocate ?
Oui. Je suis l'ustadha Leïla Haddad, Mohamed Chouhada ou Jarha Thawra. Et nous sommes plus de 90% de l'aïlée Chouhada ou Jarha Thawra.
Je suis maître Leïla Haddad, avocate. C'est moi qui défends 90% des dossiers des martyrs et blessés de la Révolution.
319
familles.
أهم مطلب لعائلة الشهداء وجرحى الثورة هو معرفة من قتل أبنائهم ومحاسبة من قتل أبنائهم وعدم تكريس مبدأ الإفلات من العقاب في المحاكمات.
La première revendication des familles de martyrs, c'est de savoir qui a tué leurs enfants et de les sanctionner et que personne n'échappe à la justice dans cette affaire.
Or, ce que vous dites, c'est qu'en avril dernier, toutes les poursuites ont été abandonnées.
Oui. لأن الأحكام الصادرة يوم 12 أفريل.
La justice a disculpé tous les gens qui étaient impliqués et c'est une honte pour la transition démocratique et pour notre parcours parce que même aujourd'hui on se retrouve avec une partie de ces gens-là qui sont non seulement en liberté mais qui même se présentent dans les élections.
C'est ça, parce que les poursuites, à un moment, il était question de faire même une loi, de voter une loi d'exclusion de tous ceux qui avaient participé au régime de Ben Ali. Et cette loi aussi a été abandonnée. Maintenant, c'est comme si la Tunisie regardait de l'avant et oubliait de régler le passé.
نعم احنا ندين كل الاحزاب السياسيه سواء كانت الحكومه او المعارضه على اعتبارها انها لم تحقق مطالبها
سواء les gens qui étaient au pouvoir ou bien l'opposition de ne pas avoir assuré la rupture avec le système précédent et c'est pour ça que nous nous retrouvons à cause d'eux aujourd'hui seulement 3 ans après la révolution en train de revoir les symboles de l'ancien régime revenir sur la scène. Et ceci est honteux.
Merci beaucoup.
Là, on passe devant la police. Qui est panier à salade avec les gars armés dans leur grillagé et qui regardent d'un air un peu défiant ces manifestants qui, à vrai dire, ne font pas très inquiétants. Ce sont des mères de famille, des gens modestes qui brandissent des petites photos et là qui sont en train de remonter l'avenue Bourguiba. Les gens, les passants s'arrêtent à peine pour les regarder. Monsieur, là je vous vois, vous avez sous votre bras un portrait, un cadre un peu abîmé, un peu réparé. Et on voit dessus un jeune homme. C'est votre fils ?
Oui, c'est mon fils, oui.
Marwan Jamli.
Marwan ?
Oui.
Et quel âge il avait ?
19 ans.
19 ans.
À peine il a été diplômé, 3 mois plus tard, il s'est pris une balle et il est mort. Et celui qui a tiré sur mon fils, il a eu une promotion.
Et qu'est-ce que vous attendez de ces élections, vous ? Vous savez pour qui vous allez voter ?
Oui, bien sûr, je vais voter pour que les voix n'aillent pas au RCD. L'équipe de Ben Ali est revenue en force, il faut vraiment que nous leur fassions face.
Vous avez 2 photos avec vous, c'est assez impressionnant parce qu'on voit un beau jeune homme comme une photo d'identité. Et dans un petit cadre en bas de la photo, on voit le même jeune homme, mais le visage complètement tuméfié, couvert de sang.
Et en plus, il était jeune marié, il avait un bébé de 1 an. Personne, aucun parti, personne n'a rien fait pour ni son enfant, ni son bébé, ni sa femme. Les partis, moi, j'y crois plus du tout, spécialement en Nahda. Non, moi, je vote pour personne. Mon fils est mort, vous voulez que je vote ? Je ne voterai plus jamais.
Ah bon ? Mais il s'est battu pour que les Tunisiens puissent voter, puissent choisir. Il est mort pour ça aussi, quand même, pour la démocratie.
Oui, bien sûr, c'est pour ça aussi. C'est vrai que c'est pour ça qu'il se battait. Mais moi, quand je vois nos conditions et comment ils l'ont méprisé après, comment ils sont indifférents pour les gens qui ont donné leur sang, et ben, j'ai plus confiance en eux, j'ai plus envie de participer. Pour nous, le grand tyran est parti, c'est déjà pas mal. Et maintenant, tout le suivant aussi, on leur dira dégage. Tous ceux qui s'avèrent mauvais, dégage.
Elle me dit ça en brandissant le poing.
زنجة الشيطان ترى ولاد الحومة راك شمعة ما تغل شختك اختار لي حتى من ربع صا وليد الكعم شربة يولي ينفخ عالصلاة عيشة درجة من القسطاسة بلدي نكذا بالشوكولاتة يزي من دمعة سيالة يزي من لخالة يزي مكلات الوكالة قداش من واحد فينا لعبوا لو لعبة شنجالة ولا بجنب برحيط نمالة على كلا مجالة
Nous
Nous aurons l'occasion de revenir en Tunisie, surtout avec les élections présidentielles qui s'y préparent ensuite, en novembre et en décembre. Un grand merci à Selma Zridi pour la traduction. Merci aussi à tous nos amis tunisiens qui voteront donc dimanche. Et en attendant, deux sites à vous recommander si vous voulez suivre cette actualité. Orient21.info et mondeafrique.com.
On assiste, plus ou moins hébété, à un glissement vers l'extrême droite. Il y a des figures comme Marine Le Pen, qui a fait une percée ces dernières années. Il y a aussi des figures comme Alain Soral et Dieudonné, qui sur fond d'antisémitisme seraient en train de construire un parti, Réconciliation Nationale. Ce qu'on entend beaucoup dans l'extrême droite, c'est le discours de l'extrême gauche. Le capitalisme, l'Europe, la classe populaire. Fermez les yeux, ça sonne vraiment comme l'extrême gauche. Rien de vraiment nouveau, ce phénomène rappelle que l'extrême-gauche n'a pas le monopole de l'anticapitalisme. Mais ce qui caractérise aussi cette extrême-droite montante, c'est de se proclamer anti-système, un mot valise qui veut tout dire. Et pourtant, Marine Le Pen critique les médias, mais les adore, et les médias l'adorent. En septembre, alors que Marine Le Pen n'a fait que 2 déplacements politiques, elle a été invitée sur plus de 13 plateaux, soit 3 passages télé ou radio par semaine. Si on s'intéresse un peu à la communication du Front National, ce qu'on va faire, on va voir que si Marine Le Pen se proclame anti-système, le système n'est pas contre Marine Le Pen et elle non plus, pas contre le système, bien au contraire, surtout en matière de communication où le Front National excelle. Alors, pour mieux comprendre comment marche la com du Front National, on part maintenant à la rencontre de spécialistes en communication.
Vous devez faire des communiqués de presse.
Un chaos épouvantable dans nos territoires.
Un communiqué de presse, c'est quelque chose d'extrêmement bref, en 3 ou 4 lignes.
Ceux qui ont violé la loi française.
Vous devez faire des communiqués de presse.
Il faut aujourd'hui suspendre Schengen.
Hier, dans notre commune, une nouvelle fois, 3 voitures ont brûlé dans le quartier de ceci. Vous devez faire des communiqués de presse. Ça, c'est le constat.
Nous nous attachons aux préoccupations des élus locaux.
Deuxième point, vous ciblez les responsables. C'est facile, c'est toujours les mêmes. Un communiqué de presse, c'est 10 lignes, 12 lignes, pas plus. Devez faire des communiqués de presse.
Là, je me trouve rue du Faubourg du Temple, à côté de Belleville, à Paris. Et c'est là qu'on a rendez-vous avec Alban, de la société Mediascope. Mediascope, qui est une agence en communication et qui n'a pas travaillé pour le Front National, mais qui a travaillé pour le Front de Gauche.
Bonjour.
Bonjour, c'est Alban ?
Oui.
Anaëlle, enchantée.
On s'intéresse aux stratégies de communication du Front National. Et pourquoi, avec eux, ça marche ?
En fait, le Front National est omnibilé par sa présence médiatique. C'est le parti, je pense, qui rédige le plus de communiqués de presse. Il n'y a qu'à se rendre sur le site internet du FN à la rubrique communiqués. Et on peut voir que, pour la journée du 21 octobre 2014, on peut voir qu'ils ont fait 7 communiqués, alors qu'un parti classique comme l'UMP ou le PS va en rédiger 1 ou 2 par jour, parfois moins, mais on n'en est jamais à 7 par jour. Enfin, arriver à faire 7 communiqués par jour, c'est vraiment essayer de vouloir traiter de tous les sujets et de se positionner sur tout. C'est pas nouveau, c'est-à-dire que le FN a toujours essayé d'apparaître dans les médias de manière continue, mais c'est vrai que depuis l'arrivée de Florian Philippot à la tête de la communication et de la stratégie du Front National en 2012, le Front National se positionne comme un parti généraliste qui est capable de parler de tout, traiter de tout, avoir un mot à dire sur tout. Et ça marche, parce qu'aujourd'hui, Marine Le Pen et Florian Philippot sont les personnalités qui sont le plus invitées dans les matinales à la télé et à la radio. Donc, en réalité, cette boulimie de vouloir commenter l'actualité fait que les médias sont omnibulés par cette réactivité.
Voilà.
Nous sommes ravis de vous retrouver sur l'antenne de LCI.
Nous sommes avec le Florian Philippot.
Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Bonsoir et bienvenue dans le grand jury dont vous êtes l'invité, Marine Le Pen. Bonsoir.
Bonsoir.
Florian Philippot, notre invité ce matin, vice-président du Front National. Bonjour.
Bonjour. Et Florian Philippot, vice-président du Front National et député européen. Merci. Bonsoir. Également de votre présence.
Merci d'être avec nous.
Bonjour.
Bonjour.
Mais est-ce que vous pouvez imposer le rythme médiatique? Parce que c'est ça.
Je pense que
c'est
oui.
Ce que je posais comme question
je pense
à Madame
que oui,
Le Pen.
Que les médias est-ce sont que... en demande.
Philippe Martel.
Parce que c'est parce que vous avez faim.
Directeur de cabinet de Marine Le Pen.
Et vous mangerez tout ce qu'on vous donnera.
Je serai avec le Front National et le Rassemblement Bleu Marine le fer de lance de l'opposition à ce traité transatlantique.
On est aussi avec Pierre-Yves Bulteau, qui est journaliste et qui a écrit un livre, En finir avec les idées fausses propagées par l'extrême droite, aux éditions de l'Atelier. Comment est-ce qu'ils arrivent notamment à reprendre toutes les thématiques de gauche, les combats traditionnellement de la gauche de gauche, et pourquoi avec eux ça marche ?
Par exemple, on prend le TAFTA, le traité transatlantique. Il n'est pas né d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est en négociation au Parlement européen depuis des années. Et dans cette période-là, c'était 2009-2014, il y a les négociations sur le TAFTA, et c'est sur le site du Parlement européen. Elle est dans la 15e page du document où on voit tous les députés, où il y a des petits plus et des petits moins qui veulent dire ils ont voté oui ou ils ont voté non. Eh bien, je vous le donne en mille, Marine Le Pen, elle est pour. Et puis,
Elle était pour à l'époque.
En mars et mai 2014, pour les municipales et les européennes, c'est un grand sujet en disant « sans le Front National, les peuples vont être bouffés par le TAFTA ». Ça, c'est la communication. Dans les faits, il y a un petit plus dans la case. Donc, entre communication et réalité de terrain, je pense que c'est ça qu'il faut regarder aussi dans les agissements et le fonctionnement du Front National.
Et pourtant, la plupart d'entre nous ignorent de quoi il s'agit. Je serai avec le Front National et le Rassemblement Bleu Marine le fer de lance de l'opposition à ce traité transatlantique.
Alban.
Avec l'arrivée de Florian Philippot et de cadres issus du gaullisme et du chevènementisme, ils ont imposé des nouveaux thèmes et ils ont créé un cursus idéologique qui ressemble, mais qui s'apparente vraiment à des idées qui pourraient être celles de la gauche. Ouais.
Ensuite, il y a la préparation de la libéralisation totale du fait des directives européennes.
Florian Philippot.
Pourquoi ? Parce que les lignes TGV vont être libéralisées totalement, ouvertes à la concurrence en 2019, et les lignes régionales en 2022.
Vice-président du Front National.
Ça, il faut le savoir aussi.
Ça, vous êtes contre ?
Nous sommes à fond contre.
Donc, les communicants de la gauche voient une partie de leurs idées pillées par le Front National, qui fait sa communication en bombardant les médias de communiqués. Et ça marche. Alors, après cette visite à la communication de la gauche, allons voir celle de l'extrême droite. L'agence de communication qui travaille pour le Front National, c'est Riwal, et elle est dirigée par Frédéric Chatillon, un ancien leader du mouvement étudiant d'extrême droite violent, le groupe Union Défense. Je les ai déjà contactés par téléphone, mais on m'a répondu que le seul habilité à me répondre était Monsieur Chatillon, et que malheureusement, Monsieur Frédéric Chatillon n'est pas là. Donc, on va les voir directement à Paris, au Trocadéro, avec Pierre-Yves Bulteau. C'est là ?
39.
Voilà.
Bonjour.
Bonjour. Oui, bonjour.
Bonjour, on travaille pour Radio France.
Et on vient vous voir parce que... Pardon ? Non ? Quelqu'un a appelé ?
Non, mais...
Bon. Il avait l'air tout seul dans ce local.
Oui, c'est assez étonnant, ce grand bonhomme qui faisait barrière. Il était seul et en même temps, il faisait barrière à je ne sais pas trop quoi.
Alors, est-ce que cela s'expliquerait-il pas parce qu'ils ont quelques ennuis judiciaires ?
Alors, est-ce que c'est pour ça qu'ils ne répondent pas ? Est-ce que c'est pour ça que M. Frédéric Chatillon est en Italie ? Parce que M. Chatillon a l'air d'être un bon communicant et un bon entrepreneur.
On sort. Les ennuis judiciaires auxquels nous faisions allusion visent Jeanne. Jeanne comme Jeanne d'Arc, c'est le micro-parti de Marine Le Pen. Ce sont eux qui gèrent les finances du Front National. Et depuis le 3 avril 2014, l'association Jeanne fait l'objet d'une information judiciaire contre X pour fraude en bande organisée, faux et usage de faux, et blanchiment en bande organisée. Et cette information judiciaire éclabousse le prestataire de l'association Jeanne, Riwal.
Alors pour plus d'explications, on retourne voir notre communicant de gauche, Alban.
Je pense que de toute façon, Monsieur Chatillon est quelqu'un de discret. Monsieur Chatillon est issu du GUD. C'est lui qui a présenté Soral et Dieudonné à Marine Le Pen. C'est aussi lui qui a introduit Soral à ses contacts en Syrie, en Iran, etc. Donc voilà, Monsieur Chatillon fait partie de la nébuleuse du Front National et a tissé des liens un peu opaques et obscurs, des liens financiers souvent, pour le Front National. Donc c'est pas du tout à l'image qu'ils veulent transparaître de gens anti-système, hors système. C'est des châtelains qui font extrêmement attention à comment ils financent leur parti et à comment ils payent leurs impôts.
Voilà.
Et vous mangerez tout ce qu'on vous donnera.
Je rappelle à tous que notre objectif, c'est d'arriver au pouvoir pour radicalement changer la politique qui est menée dans notre pays.
C'était Comme un bruit qui court, réalisé aujourd'hui par Jérôme Chélius, assisté de Karen Dehaye, avec à la technique Julien Dumont et Fabrice Desmaz.
Pas de coin des bidouilleurs cette semaine, mais on s'attardera la semaine prochaine sur comment dégoogliser Internet. Et juste après les infos, ce sera Si l'Amérique m'était comptée avec Colin et Mauduit.